Biotin, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Oui, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite est un peu essoufflée parce que j'ai couru. Alors, Enrique, autant parfois je déplore ta programmation musicale qui me fait rouler un peu trop vite tellement je suis enthousiaste, autant là, ça m'a servi parce que je voyais l'heure tourner. Je me dis, je ne serai jamais à l'heure pour le direct aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. C'est Biotin, effectivement, comme tous les samedis entre 12h et 13h. Nous sommes aujourd'hui en direct et si nous sommes en direct, vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer des SMS au 06 95 065 026. 06 95 065 026. Une émission aujourd'hui en direct et qui va tourner un petit peu autour d'Elon Musk. Il faut quand même avouer que l'actualité américaine tourne autour d'Elon Musk et de Donald Trump, mais derrière, il y a des conséquences quand même sur certaines décisions politiques et notamment américaines, notamment pour l'exploration spatiale. Et puis derrière, on sait très bien qu'il y a quand même pas mal d'entreprises d'Elon Musk qui sont concernées. Donc c'est ce qu'on va évoquer dans cette émission. Et puis il y avait un article vraiment intéressant que je voulais évoquer aussi avec vous dans cette émission concernant le film Mission Impossible. Vous avez peut-être vu le tout dernier Mission Impossible avec Tom Cruise. Si vous ne l'avez pas vu, on ne va pas dévoiler ce qui se passe, mais si vous l'avez vu, c'est vrai que ça pose certaines questions, effectivement, et on va aborder ça dans cette émission aujourd'hui. Nous sommes donc le 7 juin. Au niveau de l'éphéméride, il n'y a pas énormément de choses. Il faut noter qu'il y a 8 ans, en 2017, on a daté des restes humains dans un site préhistorique du Maroc qui s'appelle le Djebel Erroud, et cette datation, elle a fait reculer l'histoire d'Homo sapiens d'au moins 100 000 ans, c'est quand même énorme quelque part, et 100 000 ans de plus en arrière du temps, et c'est assez récemment qu'on a pu avoir une datation un petit peu plus précise, et c'était en 2017. Naissance, aujourd'hui nous sommes, on est bien le 7 juin, oui je suis un peu perdu, nous sommes bien le 7 juin, c'est bien la naissance, le 7 juin 1811 de James Young Simpson. C'est un obstétricien écossais qui utilise pour la première fois le chloroforme au cours de l'accouchement. Il l'essaie pour la première fois en 1847, cet agent anesthésique. Et l'utilisation du chloroforme et de l'éther pour lutter contre la douleur de l'accouchement suscite une opposition des médecins et du clergé. Néanmoins, il est nommé médecin de la reine en 1847 et l'utilisation du chloroforme par la reine Victoria en 1853, notamment pour la naissance de Léopold, ça popularise cette méthode. Alors, c'était pas par James Simpson, mais c'était par John Snow, un autre docteur, qui a utilisé le chloroforme pour la reine Victoria, et ça a pu populariser ce qu'on s'est dit, si la reine le fait, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas nous non plus. Et donc voilà, ça a été utilisé pour la première fois par cet obstétricien écossais qui est donc né un 7 juin 1811, et cette éphéméride nous permet justement de pouvoir un petit peu, d'avoir un contexte aussi quelque part et avoir quelques dates assez essentielles. Ça nous donne un petit peu l'idée à quel moment on se met en place telle ou telle méthode. Décès le 7 juin 1886, nous sommes toujours dans le 19e siècle, de Richard March Howe. C'est un inventeur américain. Il va mettre au point la première rotative à grand tirage, c'est la Tap Revolving Press en 1836. Ces rotatives donc de Richard Howe connaissent une évolution constante jusqu'aux formes définitives en 1875 qui resteront utilisées pour la majorité des journaux du monde. Voilà, dans le 19e siècle, on inventait pas mal de choses, bien sûr, et cette éphéméride assez régulièrement dans cette émission nous permet un petit peu de voir ce qui s'est passé. Ça nous permet de jouer comme ça ce jeu qui s'appelle Timeline, je crois, de mémoire, qui permet de placer sur une échelle du temps telle ou telle découverte ou telle information. Donc, si vous êtes attentif à cette émission, toutes les semaines, vous allez pouvoir apprendre de plus en plus de choses pour pouvoir jouer de façon efficace à ce jeu. Vous nous écoutez sur le 94.9, donc pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet, internet en direct aujourd'hui, le samedi entre 12h et 13h, la rediffusion le mardi matin à 10h. Biotine, une émission d'actualité scientifique et puis aussi un peu de musique bien sûr que nous allons écouter, qui vont un petit peu m'accompagner tout au long de cette émission. J'ai totalement pris au hasard dans la playlist qui nous est proposée les titres, je vais les découvrir en même temps que vous. C'était assez acrobatique le passage de relais entre Enrique et moi-même pour cette émission. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction de cette émission, je trouve assez intéressant ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Alors intéressant d'un point de vue scientifique et technique. On remet le contexte et c'est cet article de Futura Science qui se pose des questions concernant les conséquences qu'il peut y avoir pour l'avenir de la NASA entre ce divorce, on va dire, entre Elon Musk et Donald Trump. Il est devenu fou, c'est ce que déclare le président américain au sujet d'Elon Musk. Est-ce qu'il faut destituer Donald Trump? Oui. Pour le fondateur de SpaceX, c'est un petit peu la fin d'une certaine amitié, d'une certaine bromance, hein, comme on utilise ce mot maintenant entre les deux milliardaires. Une alliance qui avait permis bien sûr à Donald Trump de remporter les élections américaines l'année dernière. Une alliance qui semble se terminer avec fracas et échange d'insultes et de menaces par réseaux sociaux interposés, bien sûr. Une semaine après son départ de la Maison-Blanche, Elon Musk n'a pas traîné pour se retourner contre le président américain, en commençant par critiquer son grand projet de loi qui s'appelle le Big Beautiful Bill. Et de son côté, Trump et son équipe gouvernementale se sont agacés des nombreuses ingérences d'Elon Musk et des nombreux conflits d'intérêts qui l'entourent, dont son rôle un peu nébuleux dans la nomination de Jared Isaacman comme futur directeur de la NASA. On en avait parlé dans cette émission, je crois en avril, il me semble qu'on avait évoqué un petit peu toutes les nominations qui s'étaient faites, et notamment au niveau de la NASA. Une décision sur laquelle Trump est depuis revenu, ce qui expose bien sûr l'agence spatiale américaine à un avenir incertain. Ça a commencé jeudi, hein, il y a eu une série de posts, notamment sur le réseau social X, une série de posts d'Elon Musk qui accuse le président d'ingratitude, qui menace de fonder un nouveau parti politique, qui appelle à le destituer. Donc Elon Musk, il est un peu en colère. Et en réponse, Donald Trump l'a menacé sur son réseau social à lui, le réseau Truth, de mettre un terme à tous les contrats entre le gouvernement américain et les entreprises d'Elon Musk, dont Tesla et SpaceX. Alors il répond à son tour, Elon Musk, il a menacé de rendre indisponible le vaisseau Dragon qui sert à transporter les astronautes entre la Terre et la Station Spatiale Internationale avant de revenir en arrière, bien sûr. Parce que nombreux sont un petit peu les internautes qui s'inquiètent au sujet de l'avenir du spatial américain après avoir été un petit peu témoin de ce clash assez violent et assez historique et totalement récent, parce que ça date de jeudi soir, il me semble. Y a-t-il un danger pour SpaceX? Alors, a priori, non, nous dit cet article de Futura Science. Les enjeux derrière les contrats entre SpaceX et les États-Unis sont bien plus importants que ces absurdes agressions mutuelles en ligne, parce que SpaceX reste un partenaire important de la NASA et du Pentagone. Alors, est-ce qu'il s'agit surtout de menaces en l'air portée par deux individus connus pour leur ego un peu incommensurable? C'est une question, c'est peut-être possible, mais cet échange un peu, ces échanges vont sans doute peser dans la vision spatiale américaine. Alors aujourd'hui, il est un peu difficile d'imaginer la suite. Hein. Ce revirement dans les relations entre Trump et Musk pourrait néanmoins rebattre les cartes dans l'obtention des futurs contrats gouvernementaux. Parce que si la situation empire, eh bien cela va profiter aux concurrents de SpaceX qui ont attendu en silence un peu la fin de cette alliance entre Trump et Musk. Parmi la concurrence, il y a une société qu'on a déjà aussi souvent évoquée dans cette émission, c'est la société Blue Origin qui a été fondée par Jeff Bezos, une société qui semble se préparer à accélérer la cadence de ses vols qui s'appelle New Glenn. Et le timing, il est un peu mal choisi pour SpaceX parce que le Starship est encore loin d'être opérationnel. Son développement prend du retard. Le reste de l'écosystème spatial se renforce pour être plus résilient. Puis d'ailleurs, Blue Origin continue le développement de son atterrisseur lunaire qui avait été retenu initialement par la NASA pour des missions qui vont avoir lieu dans un futur proche. Donc, c'est assez troublant, c'est assez incertain, mais derrière, il y a quand même des enjeux économiques assez importants. Il est également difficile de savoir si il y avait une priorité qui avait été donnée, c'était l'exploration habitée de Mars. Est-ce que c'est toujours d'actualité pour la Maison Blanche ? Maintenant, on n'en sait rien. On a bien compris que Trump, il change d'avis comme de chaussettes. Donc, il avait précisé il y a quelques mois que c'était pas une top priorité pour lui, c'est le fait de pouvoir explorer Mars et de pouvoir y habiter. Donc c'est assez trouble. Enfin voilà, la situation est assez troublée en ce moment. Mais quelle que soit la vision des différents présidents américains, notamment depuis Barack Obama, c'est quand même le Sénat des États-Unis qui garde un ultime contrôle sur le budget en ce qui concerne le programme spatial américain. Et dans sa proposition de budget pour la NASA pour l'année prochaine 2026, eh bien la Maison-Blanche avait suggéré de mettre fin au SLS, qui est le Space Launch System, c'est une fusée lunaire, et également d'un vaisseau Orion. Et puis de mettre fin aussi à la future station spatiale lunaire qui s'appelle Gateway, au profit de vols habités vers Mars plutôt que prévu. Donc vous voyez que d'un côté, le président américain choisit, ou en tout cas donne certaines orientations. Le Sénat américain, lui, donne d'autres orientations. C'est quand même assez particulier. Et là encore, derrière, il y a une histoire de gros sous, mais vraiment de gros, gros sous. Il faut quand même totalement être lucide sur ce qui se passe. En tout cas, la question qu'on se pose, c'est qu'il a rejoint la campagne de Trump en juillet 2024, Elon Musk. Est-ce qu'il a fait tapis, pour parler langage poker, il a fait un tapis avec ses entreprises en comptant sur le support inconditionnel du président américain sans trop se soucier du Sénat. Est-ce que c'est un tapis perdant pour Elon Musk? On l'ignore encore, hein, parce qu'on nage un petit peu, je dirais, dans le bluff entre les deux milliardaires. Mais c'est un peu, voilà, une actualité politique qui se décline sur une actualité scientifique et spatiale. Et donc, il y a Elon Musk qui n'est pas nécessairement à l'aise, en tout cas, pendant cette période, tout en sachant qu'en plus, il y a d'autres entreprises d'Elon Musk qui sont assez en difficulté, et notamment l'entreprise Neuralink. Neuralink, on en a déjà parlé aussi dans cette émission, hein. C'est une autre entreprise d'Elon Musk. Ça avait fait grand bruit ces dernières années, et c'est vrai qu'on avait un petit peu suivi cette aventure. Il y a 3 personnes actuellement qui bénéficient de son implant cérébral, et ça permet, c'est quand même... Enfin, techniquement, ça reste quand même assez intéressant. On met un implant cérébral et ça permet aux personnes de contrôler un ordinateur par la pensée. C'est quand même assez fascinant d'un point de vue technique, il faut quand même le dire. D'un point de vue éthique, c'est autre chose, mais d'un point de vue technique, il faut quand même avouer que c'est assez fascinant. Eh bien, il n'empêche que tout ne se passe pas comme prévu, notamment pour le Neuralink, puisque pour le premier patient, eh bien, 85% des électrodes se seraient déconnectées. Donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme un échec? En tout cas, semi-échec, oui. Par contre, Neuralink, c'est pas la seule entreprise qui travaille sur les implants cérébraux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière, il y a quand même une concurrence, bien sûr. Donc, on attend de voir ce que va donner un petit peu l'alliance, la relation entre Trump et Musk. Il y a d'autres entreprises, et notamment, il y a la start-up qui s'appelle Paradromics, qui vient, elle, de franchir une nouvelle étape en implantant pour la première fois son implant chez un humain. L'opération, elle s'est déroulée à l'Université du Michigan. C'était le 14 mai dernier, donc il y a quand même quelques jours. Et c'était lors d'une intervention pour épilepsie. Et ce qui est intéressant pour cette entreprise, c'est que la procédure, elle a duré 20 minutes seulement. L'implant a réussi à enregistrer des données et puis on a pu retirer cet implant dans la foulée. Ça a duré 20 minutes maximum. C'est là aussi un exploit. Et l'appareil, il n'a pas encore été approuvé par l'administration américaine. Donc, il ne s'agissait que d'un test d'implantation et non d'un test ou en tout cas d'un essai sur le long terme. Il n'empêche que ça prouve quelque part qu'on peut avoir des implants qui peuvent être testés et retirés en 20 minutes pour le confort du patient, évidemment, c'est assez intéressant. D'autant que l'appareil qui a été mis en place par cette start-up qui s'appelle Paradromix, l'appareil est assez différent de celui de Neuralink de Musk. Parce que Neuralink, on a compris qu'il y avait des fils assez fins, voire ultra fins pour ces électrodes. Par contre, pour Paradromix, ils ont considéré qu'il fallait mettre toutes les électrodes, les réunir toutes au même endroit sur un petit disque. Et notamment, ça permet d'avoir plus de 400 électrodes en platine et en iridium et qui mesurent chacune moins de 40 micromètres. Le micromètre, c'est invisible à l'œil nu. Et donc c'est de l'infiniment petit, c'est du minutieux, mais ça fonctionne. Ça s'appelle Conexus, je vais y arriver, qui devrait pouvoir enregistrer l'activité cérébrale à l'échelle du neurone. Et à terme, l'idée, c'est de permettre non seulement de déplacer le pointeur d'un ordinateur, parce qu'on est toujours dans cette idée de pouvoir contrôler un ordinateur avec la pensée. Donc si on pense qu'on va déplacer le curseur, ou le pointeur, on va dire, sur l'écran, eh bien le pointeur va effectivement se déplacer sur l'écran, rien que par la pensée, ça c'est fascinant. Et ça permet aussi de traduire les signaux des neurones en paroles grâce à une synthèse vocale. C'est quand même assez bluffant. La réussite de l'opération marque une nouvelle étape pour l'entreprise qui va pouvoir ainsi démarrer les essais cliniques. Paradromix indique avoir déjà prévu plusieurs interventions dans les prochains mois afin d'étudier l'usage à long terme de cet implant. Cette start-up espère ainsi redonner la possibilité de communiquer pour les personnes paralysées par des conditions spécifiques comme la sclérose latérale amyotrophique, les AVC, accidents vasculaires cérébraux, et tout ce qui est lésions de la moelle épinière. Donc il y a vraiment des débouchés assez intéressants. On a bien compris qu'on est quand même au début d'une phase de test. On n'est pas sur des résultats concluants qui vont pouvoir être déployés en grande échelle. Il n'empêche que on a un nouvel implant cérébral qui peut-être illustre le fait que Neuralink serait peut-être dépassé. Donc voilà, il y a vraiment en ce moment un faisceau de cas, de faits qui mettent un petit peu en péril l'avenir de certaines entreprises d'Elon Musk. Voilà ce que l'on pouvait dire, bien sûr, aujourd'hui dans cet aspect Elon Musk. On écoute un peu de musique, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Il est 12h20, nous sommes en direct, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, réagir au 06 95 065 026. Et puis on se retrouve juste après, bien sûr, pour continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
Pieces if we move too slow. Always up and with more speed, we'll reach the bottom where the lines will meet. Where the sun don't need to shine, no need for reason and no need for time. Way up we go, live and stop me from falling. Way up we go, live and stop me from falling. Let me rise high above the falling rain. I feel in my spine, we got all the world ahead. All right. Way up we go, live and stop me from falling. Way up we go, live and stop me from falling. Oh, let me shine far beyond the rocks or creeks. I feel in my spine, we got all the lives ahead. Tell me all we need to become. Let that be all we need to be. We'll be right back.
I write when leaves are shaking from side to side. Tracking stars until the end, and every morning getting back again.
Pardon, excusez-moi, c'était Gainwood avec Where Up We Go sur l'antenne de Graphite. J'étais en train de préparer les articles et j'ai pas vu que ça allait se terminer. En plus, c'était sympa, c'était bien. Vous êtes en direct sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé. Vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir télécharger tous les podcast de toutes les émissions de Graphite. Biotine, donc tous les samedis, on parle de l'actualité scientifique. Et en fait, je me disais, il y a encore pas mal de choses concernant Elon Musk, parce qu'il ne va pas se laisser abattre, même si au niveau de Starship, ça accumule un petit peu les échecs. Hein. Il y a une interruption de plus de 2 mois où SpaceX s'est attaché à essayer de comprendre et à corriger les causes des échecs précédents. Eh bien, le Starship était de nouveau sur son pas de tir et quelques jours pour un 9e vol d'essai. Malheureusement, ce vol s'est soldé par la perte de l'étage supérieur lors de sa rentrée. Bien qu'il ait atteint l'espace à près de 200 km d'altitude, il y a une amélioration par rapport à 2 vols précédents. Eh bien, ni le booster ni l'étage supérieur n'ont accompli tous leurs objectifs. Et donc, à la suite de cet échec, Elon Musk, le PDG de SpaceX, a partagé sur les réseaux sociaux ceci. Il dit « Starship a réussi à couper ses moteurs comme prévu, marquant ainsi une nette amélioration par rapport au dernier vol. » Oui, on peut le voir comme ça. On peut voir le verre à moitié plein, évidemment. Il a également indiqué, Elon Musk, que des fuites avaient entraîné une perte de pression du réservoir principal pendant la phase de croisière et de rentrée. Cependant, nous avons recueilli... Nous avons recueilli de nombreuses données intéressantes à analyser. Alors Elon Musk, il a annoncé que les 3 prochains lancements de tests de Starship pourraient s'effectuer tous les 3 à 4 semaines dans les jours à venir. Il est quand même assez optimiste. Hein. Ça peut surprendre étant donné un petit peu la série d'échecs en vol. Mais faut rappeler que la méthode de développement de SpaceX, elle est axée sur l'expérimentation et l'apprentissage par l'expérience. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il va faire des essais en direct. Il va faire des essais... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je suis désolé, je vais y arriver. Il fait des essais en direct. Il fait des essais grandeur nature, ce qui va lui permettre de pouvoir récupérer pas mal de données et de pouvoir ensuite corriger un petit peu ces données. Il va pouvoir perfectionner ses technologies, même si ça passe par des échecs. Et ça, c'est tout le raisonnement d'un développement expérimental. C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par des essais qui vont vous permettre, selon les résultats, et les résultats peuvent être mauvais, ça va vous permettre après d'améliorer ensuite votre dispositif, votre prototype et ainsi de suite. Donc lui, c'est ce qu'il fait, c'est grandeur nature. C'est totalement différent par rapport à Ariane Group qui, lui, va plutôt privilégier la qualification des lanceurs au sol avant le premier vol. Donc tout va être fait de façon indépendante et en amont, et après quand tout est bon, ça y est, on se lance pour le premier vol. C'est une stratégie, je vais y arriver, différente, mais qui a fait ses preuves concernant bien sûr Ariane Group. Alors voilà, on est pour l'instant sur une phase assez compliquée concernant SpaceX. Il n'empêche que il y a toujours cette idée de coloniser Mars. Alors, on a bien compris tout à l'heure en introduction qu'il y avait quand même un doute encore sur le fait qu'on va mettre un paquet d'argent sur l'idée d'aller se rendre sur Mars et d'y rester. Il n'empêche que pour l'instant, lui, Musk, il y croit encore parce qu'il poursuit son programme martien avec l'idée à long terme de coloniser Mars. Et dans sa dernière sortie médiatique il y a quelques jours, Elon Musk a réaffirmé son ambition d'effectuer un lancement non habité vers Mars dès 2026. 2026, c'est dans quelques mois. Et cela avec la prochaine version du Starship, qui est la version numéro 3, dont un premier vol d'essai est prévu à la fin de cette année. Donc il fait un premier vol d'essai et après il enverra ça sur Mars. La date de fin 2026 pour le premier lancement du Starship vers Mars, ainsi que l'éventualité d'un atterrissage humain dès 2029, voire 2031, et même si c'est 2031, c'est quand même une échelle très très courte, eh bien ça représente néanmoins des objectifs qui sont annoncés, mais qui sont extrêmement ambitieux. Mais c'est pas inhabituel pour Musk, hein, on l'a toujours connu comme ça, toujours optimiste dans ses objectifs, mais vu ce qu'il a fait par le passé d'un point de vue technique, technologique, on suit quand même ça de près parce qu'on se dit il peut peut-être y arriver. La troisième version du Starship sera haute de plus de 120 mètres, c'est-à-dire que ça va être de plus en plus grand. Une version numéro 3, donc, qui est conçue pour les voyages à destination de Mars et sa colonisation, afin que l'étage supérieur, c'est-à-dire le véhicule qui va voler vers Mars, soit ravitaillé en carburant en orbite autour de la Terre. C'est une capacité nécessaire pour des voyages vers l'espace lointain. On n'a jamais été si loin, bien évidemment. Et le lancement depuis la Terre avec tout le carburant nécessaire à bord, ça laisse peu de masse disponible pour la charge utile, c'est-à-dire pour les astronautes et puis pour toutes les infrastructures qu'on va installer sur Mars. Donc il faut essayer de trouver un système permettant de ravitailler cela. Il y travaille, bien évidemment, et il a donc révélé son plan pour la colonisation de Mars, Elon Musk. Donc c'est assez intéressant, je vous invite à lire cet article de Futura Science, et puis vous pouvez le retrouver également sur Science et Avenir, qui relate un petit peu plus en détail justement ce qui est prévu, mais on est vraiment sur des échelles de temps très courtes. Je vous ai toujours dit, mais j'ai l'impression que je rabâche ce que je raconte, mais la décennie 2020, elle va être fascinante d'un point de vue spatial. Et pour l'instant, on n'est quand même pas déçus, parce que là, on est sur encore des calendriers que l'on arrive à tenir. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et donc, le lancement, 2026, l'idée d'aller sur Mars en 2029, voire 2031, avec ce qui est évoqué, par exemple, 100 lancements de Starship pour coloniser Mars, avec à chaque vol 150 tonnes de charge utile. C'est-à-dire qu'évidemment, il va falloir emmener pas mal de choses, donc il va faire pas mal de vols. Mais tout ça est planifié, est prévu, est programmé. Et bien sûr, on suivra ça où que l'on soit, sur cette antenne ou ailleurs, parce que c'est tellement fascinant qu'on regardera ça, bien évidemment. Alors, il a même également voulu essayer de définir un petit peu les zones qui sont privilégiées, parce que Mars, on ne connaît pas nécessairement précisément là où est-ce qu'il faudrait se mettre d'une façon sereine et prolongée. Donc il y a pas mal aussi de choses qui sont expérimentées sur ce domaine-là. Donc je vous invite à lire tout cet article que l'on peut trouver gratuitement sur le site de Futura Science concernant le plan d'Elon Musk pour la colonisation de Mars.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Allez, on va passer à tout à fait autre chose, parce qu'on a fait quand même deux meilleurs sur Elon Musk, gratuitement pour lui en plus, sur la tête de Graphite. Et il y a d'autres sujets qu'on va pouvoir évoquer dans cette émission. Je trouvais cette annonce de l'Université de Melbourne vraiment intéressante, qui nous est relatée concernant la détection de milliers de maladies rares avec une seule goutte de sang. C'est un test qui pourrait être assez impressionnant et pourrait révolutionner la médecine, parce que quand on souffre sans le savoir d'une maladie rare, le chemin avant d'être pris en charge s'apparente souvent à un parcours du combattant. Pourtant, Une prise en charge précoce, si possible dès la naissance, s'avère fondamentale pour améliorer la qualité de vie et le pronostic. Et donc, il y a des chercheurs australiens qui pourraient avoir trouvé la solution pour remédier à ce problème. Dans une publication de la revue Genome Medicine, eh bien, ces chercheurs australiens expliquent qu'ils ont mis au point un test permettant, à partir d'un millilitre de sang, une goutte de sang en clair, de détecter rapidement parce qu'ils considèrent que les résultats seront disponibles en moins de 3 jours, de détecter rapidement et de manière peu invasive, oui, parce que c'est juste une goutte de sang, détecter plusieurs milliers de maladies rares différentes. Actuellement, le diagnostic des maladies génétiques rares repose majoritairement sur ce qu'on appelle le séquençage du génome. C'est une technique qui n'aboutit à un diagnostic que dans 30 à 50% des cas, donc c'est pas toujours fiable, c'est pas toujours complet et opérationnel. Et donc, ce nouveau test australien repose, lui, sur le séquençage des protéines plutôt que sur le séquençage du génome lui-même. L'intérêt, c'est que les données qui sont obtenues peuvent aider à comprendre comment les modifications de la séquence génétique affectent la fonction de la protéine en question. Et comme il y a une modification de la fonction de la protéine, ça, c'est ce qui peut conduire à une maladie. Donc, Daniela Hock, qui est le principal auteur de cette étude, explique « Notre nouveau test permet d'identifier plus de 8000 protéines dans les cellules du sang, ce qui couvre plus de 50% des gènes connus responsables de maladies et nous permet également de découvrir de nouveaux gènes responsables de maladies. Et c'est ce qu'elle explique et c'est quand même assez intéressant. Alors, outre le fait qu'il permettrait un accès plus rapide à des traitements, eh bien, ce test pourrait être utilisé avant la grossesse, c'est-à-dire des tests prénataux ou préimplantatoires, pour justement prévenir l'apparition d'une maladie rare. Son utilisation pourrait également permettre de faire des économies substantielles parce que la mise en œuvre de ce test en milieu clinique aurait un coût similaire à celui du test actuellement utilisé pour diagnostiquer les maladies mitochondriales rares, avec l'avantage que notre test peut potentiellement diagnostiquer des milliers d'autres maladies. Et c'est ça qui est assez intéressant. Alors pour le moment, le test, il est en phase d'essai clinique. Il y a 300 volontaires porteurs de maladies génétiques qui ont été recrutés afin de pouvoir évaluer un petit peu l'efficacité de ce dispositif, notamment pour d'autres pathologies que les maladies mitochondriales. Et si sa sensibilité et sa fiabilité sont confirmées, eh bien, il pourrait révolutionner vraiment profondément le parcours des patients qui sont touchés par les maladies rares. Rappelons qu'il existe plus de 7000 types de maladies rares causées par des mutations génétiques et elles touchent environ 300 millions de personnes dans le monde. Donc effectivement, si ce test s'avère efficace, ça donne des perspectives véritablement intéressantes, bien sûr. Donc là encore, on est sur l'effet d'annonce de quelque chose qui démarre. Donc il faut voir, bien sûr, sur la durée si cela sera efficace et opérationnel. Il n'empêche que c'est assez prometteur et assez intéressant de voir tout cela, bien sûr. Allez, on écoute peut-être... Ah non, je vais peut-être vous parler de Ramsès III, tiens. Oui, je vous parle de Ramsès III parce que c'est... On parle de tout dans cette émission, en fait, et c'est ça qui est intéressant. On va parler de Ramsès III parce que la science, elle confirme l'assassinat de Ramsès III, un assassinat qui date il y a plus de 3000 ans, hein, quand même. C'est la conspiration du harem royal qui reste l'une des plus fascinantes affaires criminelles de l'histoire ancienne. Pendant des millénaires, il y a des historiens, des archéologues qui ont tenté de comprendre si le complot organisé contre Ramsès III avait réellement abouti à son assassinat. Et grâce aux avancées technologiques récentes, eh bien, cette énigme millénaire livre enfin ses secrets et révèle les intrigues mortelles qui se jouaient au sommet du pouvoir égyptien. Alors l'histoire de cette conspiration, elle est restée dans l'ombre jusqu'au XIXe siècle. Il y a eu la découverte d'un... Pardon, excusez-moi. Il y a eu la découverte d'un... Je vais y arriver, excusez-moi. La découverte d'un document exceptionnel dans les années 1820 qui a bouleversé la compréhension de la fin du règne de Ramsès III. Ce papyrus judiciaire de plus de 5 mètres de long, qui date du 12e siècle avant Jésus-Christ, détaille un complot fomenté au sein même du harem royal. Et le document décrit un procès pour haute trahison qui implique Ti'i, qui est l'une des épouses secondaires du pharaon. Et selon les textes, eh bien, cette femme ambitieuse souhaitait voir son fils Pentahor accéder au trône d'Égypte. Et pour y parvenir, elle va recruter de nombreux complices parmi les serviteurs du palais et même le médecin personnel du pharaon. Et le fait remarquable, c'est que le papyrus reste étrangement silencieux sur l'issue du complot. Et donc, cet oubli, cette omission délibérée a longtemps intrigué les spécialistes, parce que les chercheurs modernes y voient un exercice de prudence de la part des scribes de l'époque, probablement réticents à consigner l'assassinat réussi d'un pharaon, qui était bien sûr la figure divine en Égypte ancienne. Et au cœur de cette intrigue mortelle se trouvent les enjeux de pouvoir omniprésents dans le harem royal. Cet espace luxueux, qui était le symbole de la puissance du pharaon, abritait l'épouse principale, Ti'i, ainsi que plusieurs épouses secondaires, leurs enfants et leur personnel. Et les recherches archéologiques ont révélé que Ramsès III aurait eu approximativement une centaine d'enfants. C'était pas mal. Cette situation crée inévitablement des tensions concernant, bien sûr, la succession du trône. Et donc, en 1164 avant Jésus-Christ, le décès d'un prince héritier va placer le jeune fils de cette fameuse Ti'i en position de successeur légitime. Et les travaux de l'archéologue Suzanne Redford ont apporté un éclairage nouveau sur les motivations de Ti'i. Il y a une vingtaine d'années, on a analysé les reliefs du tombeau royal et bien l'analyse suggère que Ti'i pourrait avoir été une reine et non une simple épouse secondaire. Ce statut aurait donné à son fils, donc Pentahor, une légitimité accrue pour revendiquer le trône, expliquant comment elle pu convaincre tant de dignitaires à participer à son complot. Et donc les acteurs de cette conspiration antique, ils forment ces acteurs un réseau complexe d'alliances et de trahisons. Donc Ramsès III, qui est le dernier grand pharaon d'Égypte, Ti'i, qui est l'épouse secondaire, Titi, qui elle est l'épouse principale, Pentahor, le fils de Ti'i, et qui était donc le prétendant illégitime au trône, et le médecin personnel du pharaon, qui est le complice clé du complot. Et le mystère entourant la mort de Ramsès III est resté entier pendant des siècles. Et la découverte de sa momie en 1886 n'apporta pas immédiatement de réponse claire. Les premières analyses, y compris des radios qui avaient été effectuées dans les années 60, n'avaient révélé aucun signe évident de mort violente. Et la percée décisive, elle est venue en 2012 grâce à des technologies modernes. Il y a une équipe internationale de chercheurs qui a soumis la momie de Ramsès III à des examens assez particuliers, notamment à des analyses d'ADN. Et les résultats sont stupéfiants, c'est qu'on découvre que le pharaon avait eu la gorge tranchée jusqu'à l'os, prouvant définitivement, bien sûr, son assassinat. Et les examens ont également montré que ces embaumeurs avaient remplacé ses organes abdominaux par des figurines représentant Horus, qui était le dieu égyptien associé à la guérison, et également des amulettes de protection qui avaient été placées autour de son cou et de ses pieds, probablement dans l'espoir de faciliter sa renaissance dans l'au-delà. Ce qui est plus intriguant encore, il y a donc des analyses d'ADN qui ont permis d'identifier la mystérieuse momie hurlante découverte près du pharaon, et son profil génétique correspondait à celui de Ramsès III, ce qui suggère fortement qu'il s'agissait de Pentahor, donc on a peut-être mis le fils avec. Contrairement aux autres momies royales, eh bien son corps avait été simplement enveloppé dans une peau de mouton, ce qui est le signe d'une profonde disgrâce posthume, bien évidemment. Alors l'assassinat de Ramsès III, ça marque un tournant dans l'histoire égyptienne. Malgré le succès du complot, eh bien, les conspirateurs ne vont pas atteindre leur objectif ultime. Ainsi bien le fils de Titi, le fils de l'épouse principale qui va monter sur le trône sous le nom de Ramsès IV. Et quant à la reine conspiratrice, donc Ti'i, eh bien, son sort reste mystérieux. Il n'y a aucune momie lui appartenant qui n'a été découverte. Selon certains spécialistes, elle aurait pu être condamnée à la pire punition imaginable pour une égyptienne de l'époque, c'est-à-dire l'exécution par le feu. qui anéantissait toute possibilité de vie dans l'au-delà. Donc la fin violente de Ramsès III symbolise le déclin de l'Empire égyptien. Sous son règne, l'Égypte avait déjà commencé à s'affaiblir, confrontée à des invasions étrangères et à des crises économiques internes. Son fils va hériter d'un royaume fragilisé qui ne va jamais retrouver sa gloire passée. Et ainsi, cette conspiration du harem n'a pas seulement mis fin à la vie du pharaon, mais peut-être aussi précipité le crépuscule de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Mais donc voilà, la science l'a confirmé, Ramsès III a bien été assassiné il y a plus de 3000 ans. C'est assez fascinant. Vous pouvez regarder sur certains sites, moi j'avais l'article de Futura sous les yeux, mais il y a plusieurs sites qui relatent un petit peu cette histoire fascinante. Si vous êtes fan d'Égypte, à mon avis, et de science, alors là, vous avez... c'est banco pour vous. Allez, c'est pas banco, mais blanco qu'on va écouter sur l'antenne de Graphite, et puis on se retrouve juste après. Choisi totalement au hasard en catastrophe tout à l'heure, comme j'étais en retard dans la playlist, mais enfin, quand même deux titres assez intéressants. Là, c'était Tell Me That You Need Me de Blanco White sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. J'ai un peu l'impression que le ciel est en train de se couvrir d'une façon pas agréable sur le ciel de Compiègne. Oui, j'ai même l'impression qu'il pleut. pleut d'ailleurs. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, vous êtes peut-être chez vous, vous êtes peut-être en voiture, vous êtes peut-être à l'abri en train, vous êtes peut-être au soleil, si vous n'êtes pas en Picardie. Et vous nous écoutez bien sûr sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. On va parler de médecine et on va parler de mode, enfin mode, entre guillemets. Hein. C'est ces vidéos qu'on est en train de voir qui circulent notamment sur TikTok et qui montrent des jeunes hommes qui se rasent les cils. C'est une tendance qui met en danger les yeux et qui inquiète les professionnels. Il y a donc eu une alerte qui a été lancée sur cette tendance qui met en danger ceux qui s'y essaieraient. Alors, ça s'appelle le Skinny Talk. Ce sont des utilisateurs de la plateforme TikTok qui publient des vidéos les montrant se faire raser ou couper à ras de la paupière les cils. Et l'objectif, c'est de paraître un peu plus viril parce qu'on considère que les cils longs et recourbés seraient l'apanage des femmes et un symbole de la féminité. Donc on va se raser les cils, comme ça on paraît plus masculin. Voilà, bon, c'est un peu discutable comme objectif, un peu idiot, on va dire. Ce qui n'est pas discutable, ce sont les risques pour la santé des yeux. Ça, c'est totalement indiscutable. Les cils jouent en effet un rôle de barrière mécanique protectrice pour les yeux. Le docteur Romain Nicolo, qui est chirurgien ophtalmologue et cofondateur de l'Institut Voltaire à Paris, explique « Les cils sont situés au niveau du bord libre de la paupière, cette zone de transition entre les deux faces de la paupière. Leur premier rôle est de protéger l'œil, dont la cornée, et donc de protéger l'œil des agressions extérieures. Il filtre les pollens, la pollution, les allergènes, la poussière. Et tout ça, bien ça, justement, les cils les empêchent de rentrer dans l'œil. Autre rôle, eh bien, c'est de maintenir la forme de la paupière, parce que les cils constituent en quelque sorte la charpente de l'œil. Située sur la totalité du bord libre, eh bien, ils permettent d'avoir une paupière de bonne qualité qui, en vieillissant, ne tombera pas et ne se déformera pas. Il y a donc un rôle de charpente qui permet à la paupière de conserver une forme arrondie et harmonieuse. Et donc, se raser les cils ou même les couper très courts, eh bien, ça entraîne un vrai risque à court terme pour la santé de l'œil. Et donc, le docteur Nicolo explique un risque de conjonctivite, hein, parce qu'il y a une inflammation de la conjonctive de l'œil, qui est la membrane muqueuse qui tapisse la face interne de la paupière et une partie du globe oculaire. Et donc, ça peut être viral, bactérien et allergique, mais ça peut être aussi facilité si on se rase les cils. Autre risque, la kératite, hein, qui est une inflammation de la cornée, qui est la partie transparente de l'œil située devant l'iris. Et puis la sécheresse oculaire, hein, celle-ci surviendra à moyen terme parce qu'il y a des glandes qui vont sécréter la partie huileuse des larmes et qui vont se retrouver forcément lésées par cette agression du rasoir électrique. Donc le geste en lui-même présente aussi un risque, hein, parce qu'agiter à quelques millimètres de la paupière un rasoir ou une paire de ciseaux et dans des conditions d'hygiène qui ne sont pas nécessairement optimales, c'est un peu idiot. Une coupure de la paupière, voire une section des glandes lacrymales peuvent survenir et ces micro-traumatismes engendrent là encore des risques d'infection, d'inflammation ou de cellulite orbitaire. C'est ce que énumère le docteur Nicolo. Cette infection affecte donc le tissu de l'orbite et peut se propager derrière la paupière. Ça peut causer une infection extrêmement grave. Et les cils, en repoussant, ils peuvent aussi pousser dans le mauvais sens. Et donc le cil va se rétracter à l'intérieur de l'œil, va frotter en permanence sur la cornée, donc l'œil est rouge. Larmoyant, il va présenter une irritation constante. Et on peut constater une baisse aussi de la vue avec une prise en charge qui est totalement impérative. Et donc à long terme, pour ceux qui souhaiteraient donc se raser les cils sur plusieurs mois, hein, on peut avoir certains idiots qui veulent faire ça, voire plusieurs années, hein, parce que quand on est idiot, on ne change pas d'avis, eh bien, le spécialiste évoque de possibles déformations de la paupière, mais aussi des risques liés à l'exposition des yeux aux rayons du soleil, ce que confirme une étude qui avait été publiée dans la revue Computers in Biology and Medicine sur la protection oculaire assurée par les cils quant aux rayons ultraviolets, parce que les cils réduiraient environ de 12 à 14% en moyenne les rayons UV reçus sur la cornée. Donc il y a véritablement un intérêt de conserver ces cils, mes enfants. Arrêtez de faire les idiots, faites autre chose, je ne sais pas. Je sais pas, essayez de trouver un but à votre vie que de vous raser les cils. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous arrive ?
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Allez, on va terminer, avec deux petites informations. La première concerne la médecine et concerne les trous de mémoire. Ce trou de mémoire, c'est cette sensation d'avoir l'esprit qui se vide complètement et ça constitue une expérience universelle. Pourtant, ce phénomène restait peu documenté scientifiquement jusqu'à récemment. Il y a une analyse approfondie de 80 études qui a été publiée dans la revue Trends in Cognitive Sciences et cette analyse, elle offre désormais un éclairage étonnant sur les mécanismes cérébraux qui sont impliqués dans ces moments où notre pensée semble s'évaporer. Cette recherche révèle non seulement pourquoi nous subissons ces déconnexions mentales, mais aussi pourquoi certaines personnes y sont plus sujettes que d'autres. Et contrairement aux idées reçues, eh bien le blackout mental n'est pas simplement une défaillance de concentration, parce qu'on a fait quelques tests et les électroencéphalogrammes révèlent un phénomène surprenant. Pendant ces épisodes de trous de mémoire, certaines zones du cerveau entrent dans un état comparable au sommeil, ce qui produit des ondes latentes vraiment caractéristiques qu'on a pu détecter grâce à ces électroencéphalogrammes. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a certaines zones du cerveau qui se mettent en sommeil alors que la personne, elle reste parfaitement réveillé. Et ce sommeil local explique pourquoi ces moments surgissent particulièrement dans des contextes de fatigue intense. Les chercheurs ont identifié plusieurs conditions propices aux trous de mémoire. Les périodes d'attention qui sont prolongées, les privations de sommeil, l'épuisement physique et également les niveaux d'excitation cérébrale extrême, soit très haut ou très bas. Et donc cette imagerie cérébrale qu'on a mise en place par résonance magnétique, donc des IRM, ça confirme ces observations et ça montre une désactivation notable des zones qui sont associées au langage, au mouvement et à la mémoire. Et cette découverte, elle correspond parfaitement aux symptômes ressentis, c'est-à-dire l'incapacité momentanée à formuler des pensées cohérentes ou à se souvenir d'informations pourtant familières. Les données scientifiques révèlent que nous passons en moyenne entre 5 et 20% de notre temps avec l'esprit vide. Cette proportion varie considérablement, bien sûr, d'une personne à l'autre, parce qu'il y a des études qui mettent en lumière que les personnes atteintes de troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité connaissent ces épisodes plus fréquemment que les individus lambda, on va dire. Et cette variation s'explique par les mécanismes de régulation de l'excitation cérébrale. Et ça, c'est pareil, ça va être différent selon les personnes, en tout cas selon les profils neurologiques. Et les chercheurs soulignent l'importance de distinguer le blackout mental de la simple rêvasserie. Des fois, on rêvasse, on pense à rien. C'est pas du blackout mental. C'est-à-dire que quand on rêvasse, on a des pensées un peu floues, mais elles sont présentes. Le trou de mémoire, ça correspond à une absence quasi totale de contenu mental conscient. Et ça peut entraîner également des lapsus d'intention, des interruptions soudaines du dialogue intérieur et la perte du fil de sa pensée en pleine activité. Donc c'est avec, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a récemment découvert un petit peu quel était, ce qu'il se passait. On va pas dire quelle était l'origine, mais ce qu'il se passe quand on a un trou de mémoire, parce que là encore, et c'est souvent dans cette émission qu'on en parle, le cerveau est vraiment le domaine à explorer au niveau médical, parce qu'on a très très peu d'informations sur le cerveau. On ne sait pas trop comment il fonctionne d'une façon générale. Et donc, au fur et à mesure, on a des petites découvertes qui nous donnent des informations qui vont permettre d'avoir une cartographie un petit peu plus globale du fonctionnement du cerveau. Mais là, voilà, on sait que dans le cadre de ces trous de mémoire, c'est des zones du cerveau qui se mettent en sommeil. Pourquoi, comment on peut le résoudre, on n'en est pas encore là, mais ça, on vient de le savoir. Et pour terminer, avant de nous quitter, parce qu'il est déjà 12h55, juste un article très très court dans Futura Science, et qui nous prouve, et c'est prouvé, et je finis cette émission avec ça, parce que comme ça va permettre un petit peu de lancer des débats dans les familles en étudiant le mode de vie des Français, toutes catégories sociales confondues. Il y a des chercheurs de Grantham Research Institute of Climate Change. Ils ont fait des études, ils ont constaté que les femmes émettent 26% de dioxyde de carbone en moins que les hommes dans les secteurs de la nourriture et du transport. Les auteurs de l'étude ont bien sûr pris en compte les différences biologiques ainsi que les facteurs socio-économiques. Les hommes émettent plus de CO2 que les femmes. Voilà, c'est ça, c'est prouvé maintenant, on le sait. Cependant, 38% de cet écart homme-femme reste inexpliqué par les différences évidentes entre les hommes et les femmes. Pourquoi les hommes polluent-ils beaucoup plus que les femmes ? Deux causes principales ont été identifiées. La consommation de viande rouge et l'utilisation de la voiture. C'est bien, on est vraiment dans les clichés, c'est assez extraordinaire, mais du coup, c'est prouvé scientifiquement. Un paramètre vient également creuser encore plus l'écart, le fait de vivre seul ou de vivre en famille. Un homme seul a tendance à un peu moins consommer d'aliments fortement émetteurs de carbone et à beaucoup moins utiliser sa voiture. En ce qui concerne les émissions de CO2, eh bien, l'écart entre les hommes et les femmes était en fait aussi important que l'écart entre les pauvres et les plus riches. Face à ces conclusions, eh bien, les chercheurs rappelle que l'objectif est de pouvoir mieux adapter les discours et les politiques climatiques, et c'est en comprenant les différences entre les deux sexes et ce qui motive leur choix en matière de transport ou de nourriture notamment, qu'il sera possible de les aider à avoir une consommation, une mobilité plus durable, nous dit-on. Voilà, donc c'est les chercheurs de cet institut Grantham Research qui nous prouvent que les hommes émettent plus de CO2 que les femmes. Bien, c'est avec cet article que nous allons nous quitter. Comme ça, je laisse le sujet sur la table. Vous faites ce que vous en voulez. Et vous essaierez vous-même de pouvoir essayer de faire des essais grandeur nature. Hein. Calculer votre bilan carbone. Vous avez des sites internet qui vous permettent de calculer votre bilan carbone. Maintenant, il y a des choses qui existent, hein, des outils assez simple et totalement facile à appréhender pour pouvoir justement savoir quel est le bilan de carbone de chacun. Et ben faites un essai et puis vous verrez, vous comparerez. C'était Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. J'étais très heureux de vous retrouver après mon absence de la semaine dernière. On se retrouvera samedi prochain, bien sûr, à 12h pour une nouvelle émission de Biotine. Et d'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve samedi prochain, à bientôt, au revoir.